Bonjour à tous. Plaisir de vous voir ce matin. C'est chouette de vous voir ce matin et tous réunis ici. Je salue aussi tous ceux qui sont en ligne. Je ne sais pas quelle caméra regarder maintenant qu'on a deux caméras. Je crois que c'est celle-là. Bonjour à tous. Bienvenue aussi chez vous ce matin. C'est un plaisir. Et je me réjouis donc de pouvoir continuer ce message qui prend tout le mois sur l'Apocalypse. Donc l'Apocalypse en grec, ça veut dire enlever le voile. Et j'aime bien cette référence parce que c'est aussi une référence qu'on utilise pour l'art, dans le domaine de l'art. On enlève le voile de l'œuvre d'art et puis on découvre qu'est-ce qu'il y a dessous. Et puis on découvre qu'il y a une énorme fresque de Dieu, une œuvre incroyable avec plein de détails, plein de petites images. Et toutes ces images, on peut les interpréter de différentes manières. Il existe quatre principales manières de les interpréter. De manière allégorique, uniquement imagée, de manière historique, mais qui ne concerne que les premiers siècles, de manière historique sur toute l'histoire de l'Église, ou de manière prophétique qui vient après. Et ce qui me tient à cœur tout particulièrement ici, dans ce chapitre 2, donc, c'est les sept premiers versets que je vous propose de prendre ensemble. Et je pense que c'est des versets qui peuvent rejoindre les quatre manières d'interpréter l'Apocalypse, c'est-à-dire des choses qui peuvent nous toucher nous directement, des choses qui concernent aussi historiquement ce qui s'est passé, et historiquement aussi ce qui se passe dans l'Église, mais aussi ce qui va venir prophétiquement après nous. Alors pour ça, je vous propose de prendre Apocalypse 2, chapitre 2, donc versets 1 à 7. On va lire ça ensemble. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Voilà, donc juste pour donner un petit contexte à ce passage, en prenant déjà les premiers versets, il est dit donc écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. L'ange, ça peut se traduire par le messager, comme ça peut se traduire par un ange. Donc c'est Jean qui parle, Dieu qui parle à Jean, qui dit d'écrire au messager de l'église d'Éphèse. Ou à l'ange spirituel, ça dépend comment on voit, comment on interprète finalement, si c'est spirituellement, historiquement, les choses. Mais on peut les voir des deux manières. Et il dit, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Déjà, si on lit que ça, on ne comprend pas forcément. Le verset d'avant, heureusement, explique. Il dit que les sept étoiles sont les sept anges des sept églises et les sept chandeliers qui sont les sept églises. Et on voit aussi Jésus qui passe justement dans ces chandeliers à ce moment-là et qui explique, qui parle justement à Jean. Et on sait que c'est Jésus qui dit cela, qui passe au milieu des chandeliers. Et là, il s'adresse donc à l'église d'Éphèse. Il y a sept églises. Ces églises sont donc dans des villes qui sont toutes proches de où Jean écrit cette histoire. Il est sur une île à Patmos, il est prisonnier, il est vers la fin de sa vie. Et il y a ces sept villes autour et sept églises dans les villes. Et il s'adresse à ces sept églises. Donc il y a aussi une partie très historique ici. Et qu'est-ce qu'il va dire ? Ah, pardon, je vais encore dire quelque chose sur Éphèse. Éphèse est une ville très importante de l'époque, aussi importante que Rome ou Athènes. À l'intérieur d'Éphèse, il y a le temple d'Artémis, qui est une des sept merveilles du monde, du monde antique. L'église d'Éphèse a été implantée par Priscille et Aquilas. On a une lettre qui est dédiée à l'église d'Éphèse, hein, la lettre aux Éphésiens. On voit que dans les actes aussi, on voit l'église d'Éphèse implantée par Priscille et Aquilas, aidée par Paul, Apollos. Ensuite, on parle aussi de Paul qui a passé 3 ans dans cette église pour enseigner plus exactement. Il va y avoir beaucoup de miracles, des délivrances, des livres de magie brûlés et beaucoup de choses dans cette église. Et Paul va écrire à l'église d'Éphèse justement et c'est intéressant de pouvoir mettre en lien cela. Je vais peut-être juste prendre ma bouteille d'eau. Merci beaucoup. Voilà. Et donc, Dieu dit ceci. Je connais tes œuvres, verset 2, ton travail, ta persévérance, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendaient être apôtres sans l'être et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Qu'est-ce qu'on voit ici, c'est que l'Église, c'est une Église qui est persévérante. Là, il s'adresse à cette Église 40 ans après son implantation. Donc ça veut dire que l'Église a tenu pendant 40 ans les enseignements qui étaient donnés par Paul au départ. Donc déjà, il y a une persévérance qui est là, il y a des œuvres qui sont bonnes, il y a un discernement théologique qui s'est mis en place, ils arrivent à savoir quelles sont les hérésies, et ils ont rejeté ces hérésies, notamment l'hérésie des Nicolaïtes, dont il parle ici au verset 6. Donc, il y a plein de bonnes choses. Et il y a aussi quelque chose qui dit, juste au début, il dit « Je connais tes œuvres ». Et ça, c'est très intéressant de voir, parce que, et c'est mon premier point du coup pour aujourd'hui, c'est que Dieu, il connaît nos œuvres. Il connaît les œuvres de l'Église d'Éphèse, mais il connaît aussi nos œuvres à nous. Il connaît tes œuvres. Il sait quand tu pries, il sait quand tu es persévérant, il sait quand tu te lèves le matin, quand tu te couches le soir, il connaît tout de toi. Et ça, c'est un premier point pour nous ce matin. Il y a une histoire qui illustre ça, c'est l'histoire d'un homme qui est tombé en panne avec sa voiture au bord de la route. Et du coup, il a demandé de l'aide aux gens qui passaient, et il a essayé d'arrêter les voitures en disant « je suis en panne ». Et il voit une magnifique voiture qui s'arrête. Et un homme très bien vêtu, en costard-cravate et tout, qui sort avec beaucoup de classe. Puis là, il se dit « ouais, non, je ne pense pas qu'il va pouvoir m'aider celui-là ». Bon, l'homme s'approche et lui dit « est-ce que je peux voir sous votre capot ?» Bon, ok, il ouvre le capot, il regarde, il jette un coup d'œil, il voit la panne tout de suite, il la répare avec 2-3 outils qu'il avait avec lui, et la voiture démarre. Waouh ! Bon, alors il demande « mais à qui ai-je l'honneur ? Excusez-moi ». Et il lui tend sa carte, et il s'agit de Henry Ford, le concepteur de la voiture. Et cette histoire nous raconte que Dieu aussi est notre concepteur. Il connaît tout ce qu'il y a en nous, il sait exactement ce qu'il y a en nous. Et dans ce sens, je voudrais vous proposer de lever les mains au ciel, juste pour être d'accord d'accueillir Dieu, notre concepteur, ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord d'ouvrir votre capot ce matin ? Seigneur Jésus, merci. Vous pouvez juste lever les mains au ciel et dire ceci, Seigneur Jésus, je t'accueille ce matin. Seigneur, je veux être enseignable ce matin. Je veux recevoir ce que tu as à me dire ce matin. Amen. Verset 4, Dieu va dire quelque chose à l'église d'Éphèse qui est très révélateur. Il va dire « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » C'est une toute petite phrase, mais qui dit beaucoup de choses. Ça vous parle, le premier amour ? Ça veut dire que, ici, eh bien, il y a une si on compare avec la voiture, c'est qu'il y a une belle voiture, elle est bien, elle a l'air top, elle est nickel, mais si on ouvre le capot, on voit qu'il y a une panne, on voit que ça ne fonctionne plus, on voit qu'il y a un problème. Et même que c'est vide à l'intérieur. Ça nous rappelle aussi l'histoire d'Israël. Si on voit l'histoire d'Israël, au début, ils étaient tout feu, tout flamme pour Dieu, ils ont vu des miracles incroyables, ils sont arrivés dans la terre promise, et là, ils ont commencé à faire des sacrifices, mais c'était d'une manière religieuse, et ils ont abandonné Dieu, petit à petit, ils ont commencé à adorer les idoles. Paul parlait justement à l'église d'Éphèse, dans sa lettre aux Éphésiens, à la fin, il disait que la grâce soit avec tous ceux qui ont un amour inaltérable. Donc il parlait de cet amour inaltérable qu'il y avait à l'église d'Éphèse. Mais on voit que petit à petit, il y a eu des habitudes qui ont été prises, qu'il y a eu peut-être une routine qui est rentrée. Et puis cet amour, il s'est refroidi petit à petit. Et puis au bout de 40 ans, il ne reste plus que les œuvres. Il ne reste plus que l'institution, la tradition, etc. Il y a un autre exemple de ça qu'on peut illustrer dans la Bible. C'est l'histoire de Marthe et Marie. Jésus va chez Marthe et Marie. Et il y a Marthe qui est là en train de servir Jésus, de faire tout en sorte que tout soit propre, que tout soit parfait, qu'il y ait à manger pour tout le monde. Et Marie, elle est juste au pied de Jésus et elle boit ses paroles. Et Marthe, elle s'énerve contre Marie, mais elle dit, mais tu vois pas que je suis en train de tout faire. Et Jésus dit, mais c'est elle qui a choisi la bonne part. Moi le premier, mais dans l'église aussi, on peut voir ça, des activités, on peut voir qu'on nettoie l'église, on peut peut-être programmer beaucoup de choses, on peut faire beaucoup d'activités dans la vie aussi, chacun pour soi aussi, on peut avoir beaucoup d'activités, beaucoup de choses qu'on veut faire pour Dieu. Mais Dieu nous dit que c'est le fait d'adorer finalement, d'être à ses pieds qui est la bonne part. Alors combien est-ce qu'on passe de temps juste à ses pieds, juste à l'adorer, juste à lui dire... Et qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Qui c'est qui est nostalgique un petit peu en pensant à ses premières années dans la vie chrétienne? Yes. Dans les premières années, on est un petit peu comme des maris. On boit les paroles de Dieu, on lit la Bible, on est à fond. Et après, on devient peut-être un peu comme des Marthes. Et puis, on passe tout notre temps à essayer de faire le plus possible. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui si on est dans ce cas-là? Éphèse, ça veut dire désirer. Et ça montre aussi que Dieu nous désire. Dieu désire l'église d'Éphèse. Et il nous désire aussi aujourd'hui. Il nous désire intensément aujourd'hui. Et il dit ceci, Jésus il dit, dans Luc verset 12, 49, il dira « Je suis venu jeter un feu sur la terre, qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé ?» Jésus est venu avec le feu, il est venu nous enflammer. Et c'est ce qui se passe quand on le reçoit tout au départ, on reçoit ce feu en nous, justement. Mais comment est-ce qu'on va l'entretenir, ce feu, pour pas qu'il disparaisse? Il veut voir cette passion qui dure comme dans une relation amoureuse. Est-ce qu'au bout de quelques années, une relation amoureuse, est-ce qu'on serait content si on voit notre époux ou notre épouse, on voit son feu diminuer pour nous, et puis il ne se passe rien, voilà, il diminue juste. Il n'y a aucun effort qui est fait pour attiser la flamme, pour entretenir. Mais au verset 5, il y a justement une clé. Et Dieu va nous aider, justement, si on est dans ce cas-là. Et il va dire, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Et il dit, souviens-toi. Et ça, c'est tellement important de savoir d'où est-ce qu'on vient. Qu'est-ce qui s'est passé au début, quand on était plein de feu pour Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a tellement d'institutions qui, avec le temps, diminuent, sont moins embrasées, sont moins en feu, qui sont devenues des institutions bien rodées, etc. Dans le monde chrétien, on passe aussi beaucoup de temps à débattre de choses très théologiques, des fois. Mais combien de temps est-ce qu'on passe à juste se souvenir d'où est-ce qu'on vient? Et à se souvenir du feu qu'on avait au début, et même d'où on vient avant. Les Éphésiens avaient oublié ça justement au bout de 40 ans. Et Pourquoi est-ce qu'on est en feu au début? Parce que justement, on sait exactement d'où on vient. On sait qu'on était dans le péché. On sait qu'on était peut-être dans la drogue, peut-être dans des choses qui nous détruisaient. Et Dieu nous a sauvés de tout ça. On sait exactement d'où on vient. Et donc, on a un feu incroyable. Et avec le temps, on oublie. Finalement, c'est normal. Donc, il faut qu'on puisse ratiser cette flamme. Et là, je vais faire un petit coup de pub aussi pour la formation Celles et Lumières qui commence mercredi. C'est une super occasion de se rappeler d'où on vient, de pouvoir s'entraîner justement à dire « Moi, je viens de là, voici comment je me suis converti, voici comment Dieu est venu me chercher. » Et de pouvoir s'entraîner à dire ça, et de pouvoir se rappeler aussi nous-mêmes d'où on vient. Il y a aussi une autre tendance dans l'Église, des fois, c'est peut-être de beaucoup entretenir les relations à défaut d'entretenir la relation avec Dieu. Donc on va peut-être s'aimer les uns les autres, beaucoup, comme aime-toi toi-même, comme tu aimes, enfin, aimez-vous les uns les autres, comme vous aimez vous-même, mais l'amour de Dieu doit être notre premier amour, finalement. Qu'est-ce qu'on en fait de cet amour de Dieu? Et un autre exemple de ça, c'est dans l'Église méthodiste. L'Église méthodiste a été fondée au XVIIIe siècle, et un siècle après, plus ou moins, elle s'est devenue une institution. Il y a un jeune dans l'Église méthodiste qui a commencé à ramener des prostituées dans l'Église, à ramener des débauchés, à ramener des gens qui étaient dans la rue. Et puis l'Église lui a juste dit « Mais non, tu ne peux pas les ramener ici. Ce n'est pas possible. » Donc il les a pris avec lui et il est parti. Il a quitté cette Église et il a fondé l'Armée du Salut. C'est William Booth en Angleterre. Et depuis, il a sauvé des milliers et des milliers de gens qui étaient dans la rue. Aujourd'hui, l'Armée du Salut, elle a plus de 100 ans. L'ELG aussi, hein. Nous aussi, on est là depuis plus de 100 ans. Vous êtes peut-être dans cette église depuis plus de 10 ans, plus de 15 ans, plus de 20 ans, plus de 60 ans, peut-être. Je ne sais pas. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est par rapport au premier amour? Est-ce qu'on l'a laissé refroidir ou est-ce qu'on veut ratiser cette flamme? Où est-ce qu'on en est? Verset 7, il va dire que « Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. » C'est intéressant parce que Haddock, actuellement, fait une série sur la culture de la victoire. Qu'est-ce que ça veut dire d'être vainqueur? Qu'est-ce que c'est un vainqueur? Quelqu'un qui se bat jusqu'au bout, qui va jusqu'à la victoire. Quelqu'un qui ne s'arrête pas avant, quelqu'un qui ne se laisse pas refroidir non plus. Donc il y a quelque chose où on doit se lever, on doit se battre, on doit faire quelque chose. Il dit se repentir aussi. La repentance passe aussi par le fait de reconnaître qu'il y a une panne dans le moteur. Le gars qui avait sa voiture en panne, il aurait pu simplement se dire « Non, mais tout va bien, moi je ne vais pas demander d'aide, je vais rester là avec ma voiture. C'est tout, c'est pas grave si elle ne fonctionne plus. » Mais il a dû reconnaître à un moment donné, il a dû s'humilier, il a dû dire « Mais moi, j'ai besoin d'aide. » Donc quelqu'un qui se bat jusqu'au bout, c'est ça un vainqueur. Et là, j'aimerais rendre hommage spécifique à Robert Kraus, qui est décédé à la fin de l'année passée, avec le Covid, qui est décédé du Covid. Et je l'ai vu aussi en automne, je l'ai rencontré plusieurs fois, et il m'a raconté comment il s'est converti dans la ville d'Yverdon. Enfin, il vient d'Yverdon, du même coin que moi, comment il a rencontré sa femme, qui était à l'Armée du Salut, et puis comment ils ont déménagé ici, et venu ici, plus de 60 ans, il est venu dans cette église. Et donc c'est vraiment un ancien de l'église. Et... Il a perdu sa femme, il a aussi perdu une fille. Mais il est resté fidèle jusqu'au bout. Il s'est battu, il témoignait, il amenait encore des petits flyers dans la petite caissette là, de l'église. Il faisait aussi partie des sentinelles de prière. D'ailleurs, il a laissé une place libre, si vous voulez. Allez, c'est une centaine de personnes qui prient pour Genève chaque jour. Il faisait partie des sentinelles de prière. Et jusqu'au bout, la famille, j'ai entendu encore les témoignages de la famille, il rassurait sa famille, il disait « Tout va bien se passer, ça va aller, etc. » Et il les encourageait et tout. Il s'est vraiment battu jusqu'au bout. Et pour moi, c'est vraiment un exemple de quelqu'un qui n'a justement pas laissé tomber cette flamme. Et pour terminer, j'aimerais vous faire un appel, nous faire un appel, parce que je crois qu'on est tous concernés au final. Si tu sens que tu as besoin de rallumer la flamme, si tu sens que dans ton capot aujourd'hui il y a une panne et puis que tu as besoin de pouvoir te montrer à Dieu, montrer ce capot à Dieu pour qu'il puisse réparer cette panne. Si tu veux reconnaître ce matin qu'il y a un problème, si tu veux te battre ce matin pour revenir à ton premier amour, je t'inviterai à venir devant. Et j'inviterai aussi Rebecca au piano. Merci beaucoup. On va prendre un temps de louange, juste pour se mettre devant lui. Faire comme Marie, c'est juste se mettre aux pieds de Jésus. Et Jésus, il avait dit aussi, dans les derniers temps, l'amour se refroidira. Et je pense que c'est l'amour entre nous, mais c'est aussi l'amour pour Dieu. Il se refroidira finalement. Donc ça a été prophétisé. Je crois que Jésus nous dit ce matin, n'aie pas peur. Et il le dit à Jean aussi au chapitre 1. Il dit, n'aie pas peur. Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et ce matin, il nous dit, n'aie pas peur aussi. Je ne vais pas te faire de mal. J'entendais cette parole. Je vous invite à simplement reconnaître votre panne ce matin, si vous en avez une, à vous mettre devant Dieu ce matin. Regardez si vous avez une panne de courant, une panne d'allumage, et puis à laisser le concepteur, votre concepteur faire maintenant.